On va parler ce matin de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Eh bien, je vois des grimaces. Pour moi, c'est pas si facile que ça. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On vous avait qu'à prendre un texte que Philippe n'a pas. Un texte où il y a un personnage biblique qui demande à ses contemporains autour de lui, « Tu viendrais-tu souper? » Il lui répond, « Non, je vais aller essayer mes paires de bœuf. » L'autre répond, « Je viens de me marier, je vais aller ailleurs. » L'autre répond, « Ben, oui, tout ça. » Ça fait que vous voyez que, des fois, on hésite, on ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais le Seigneur est toujours là pour nous aider. Et comme ton dernier chant, Marlène, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce chant-là, quand il parle, tous les bruits, faites silence. Ça comprend les idées qu'on a, les bebelles autour de nous, autant pas en avoir trop quand tu lis. C'est mieux d'être plutôt tranquille et paisible. Donc, avant de commencer, on va remettre ce temps dans le Seigneur et on va lui demander de nous aider. Papa Céleste, on est heureux, Seigneur, d'être tes enfants. On est heureux, Seigneur, d'être participant de ton Église, participant de ton œuvre que tu as invité qu'on vienne. Merci, Seigneur, de nous aider. Merci de nous éduquer, de nous montrer toutes les merveilles que tu as dans tes écrits. Oui, Père, on te demande de bénir ce temps qu'on va prendre ensemble avec toi, avec tes enfants, avec les frères et sœurs, les amis. On te demande de bénir ce temps. Au beau nom de Jésus. Amen. Amen. Premier texte, première partie. J'ai coupé en deux parce que il y a du matériel. Mon cher Philippe, premier texte, Matthieu 21, 28 à 31. Tout dépend, et regardez bien le texte, comment on peut se positionner avec ce texte devant Dieu. Que vous en semble, un homme avait deux fils, s'adressait au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je viens bien, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel des deux fait la volonté du Père? Lequel?
Le
premier. Même s'il a dit quoi?
Je n'y vais pas.
Et pourtant, il se repentit. Il y alla. Souvenez-vous un peu des fois le dimanche matin. Oh, Seigneur. Mais ça, on resterait-il couché? On serait-il bien? Seigneur, je pense me posséderait un matin. Et quand on commence à se lever, un petit café. Oh, Seigneur, pardonne-nous. On va y aller, Lise, un matin. N'est-ce pas ça? C'est exactement cette histoire-là. Il faut se la représenter. Et dans la Bible, c'est pourquoi? C'est pour nous montrer qu'on est comme ça, des fois. On a besoin que le Seigneur nous réveille, mais nous fasse penser à des textes, à des écrits. Donc, faire la volonté du Père, c'est la même chose que l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à l'appel de Dieu dans le même sens que faire sa volonté? Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu, le premier appel qu'on a eu, c'est quoi? La première de nos appels? Hein? L'appel du salut, oui, mais un petit peu. À la repentance. On a eu besoin de se repentir. On n'est pas arrivé devant Dieu. « Hey, Seigneur, voici, je suis là, moi, là. » Mais non. Il cherchait l'humilité. La douceur. Il cherchait une réponse. Veux-tu m'y donner tes péchés afin que je te les pardonne et que je t'emmène dans ma paix, dans ma tranquillité? Eh bien, combien de merveilles ont été chantées dans le chant tantôt? Tous les trésors du Seigneur nous appartiennent si on le laisse nous les donner. Essayez pas de les chercher. Laissez plutôt Dieu vous les donner. C'est bien moins dur comme ça. Puis quand Dieu vous révèle ces trésors-là, Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous aider à comprendre tous les détails de cette situation-là. Donc, volonté, en hébreu, il n'y a pas de, proprement parler, de terme pour le mot volonté. Les noms approchants sont appelés. Ce terme s'applique à la volonté souveraine de Dieu à l'égard de l'homme. L'autre mot, ratson, qui est du grec, fait d'être content, plaisir, bonne volonté, s'applique à celui qui cherche à faire la volonté de Dieu ou qui prend plaisir à l'accomplir. Donc, il n'y a pas le mot directement volonté dans les Écritures, mais il y a des noms qui se rapprochent. Abhab, ce terme s'appliquait, par exemple, dans beaucoup d'autres textes, comme Exode 10, 27, et quelques autres. Mais ça, c'était être désireux de consentir à faire la volonté de Dieu. Le verbe nabdash indique l'engagement de la volonté. Il s'applique en particulier aux offrandes volontaires des Israélites. Donc, Dieu, dans le début des Écritures, il avait donné des règles, des ordonnances, et dans ces ordonnances-là, vous aviez, ce terme s'applique à la volonté souveraine de Dieu, vous aviez aussi, s'applique à celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, ou qui prend plaisir à l'accomplir, d'être désireux, de se consentir, ce terme s'apprête, par exemple, bien sûr, aux offrandes volontaires des Israélites. Donc, il y avait des termes qui étaient donnés, qui étaient apportés pour ça. Sous l'Ancienne Alliance, on apprend du peuple d'Israël qu'il fasse la volonté de Dieu. Par exemple, l'Ancien Testament affirme que Dieu accomplit sa propre volonté. Il conclut une alliance. Vous vous souvenez des alliances qui sont dans les Écritures? Il conclut une alliance avec ses frères humains parce qu'il le veut bien. Il ne vous oblige pas, mais il peut avoir une alliance avec vous quand vous voulez. Mais lui le veut bien. L'Éternel fait ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il y en a une qui connaît très bien ce verset-là. Le psaume 135, le verset 6. Dieu fait ce qu'il veut, hein, en tout temps. Il a créé l'univers et a pris l'initiative du salut. L'homme avec qui Dieu a fait alliance est appelé à vivre selon sa volonté, à observer la loi. Prendre plaisir à faire la volonté de Dieu, c'est avoir la loi de Dieu au fond de son cœur. Seul, si vous regardez les textes de le psaume 49, on va parler de ça, mais seuls les fous, Ecclésiaste 8, 3, que vous pouvez aller voir, ou les rois font ce qu'ils veulent. Vous allez trouver ces textes-là, comme je vous ai dit, dans Ézéchiel 8, 3 et Daniel 3 et 16 et 36. Vous allez trouver ces textes-là que les Écritures citent, les rois faisaient ce qu'ils voulaient, ou non les fous. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a encore des royaumes sur la terre, et on doit avoir encore des fous. Fait que, vous savez, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne s'accordent pas avec la parole du Seigneur, ni avec les alliances du Seigneur. Ils s'accordent avec leurs idées et leur vision. La volonté de Dieu est un thème fondamentalement de l'enseignement de Jésus. Par exemple, Luc 7, 30, Acte 2, 23, 4, 28, Éphésiens 1, 11, Hébreux 6, 17. J'en ai des références, parce que ça en prenait. Jésus lui-même n'agit pas selon sa propre volonté, mais il fait celle de son Père, n'est-ce pas? Jésus, dans Jean, tu ne les as pas toutes, Philippe, qu'on ne se passe pas la tête, dans Jean 5, 30 et 6, 38, nous parle que Jésus faisait la volonté de son Père, non la sienne. Et il essayait de faire comprendre ça à ses contemporains dans le temps. Et c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile. et aussi sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Luc affirme cela et en rapporte les paroles de Jésus à Gethsémané. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Donc, dans nos vies, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là dans nos vies? Seigneur, j'ai bien des petits problèmes, bien des petits ci, bien des ça, mais j'aimerais faire ça, mais si tu ne veux pas, il faut faire ce que tu veux. C'est un peu ce que Jésus dépeignait ici, et que ça nous rappelle qu'on est toujours sur la volonté de Dieu. On n'est pas sur la nôtre. Ça nous rappelle que des fois, comme Jésus, il a dit cela, c'était pour dire qu'il était complètement humain et complètement Dieu. Il pouvait le dire qu'il y avait une volonté qui n'était peut-être pas tout à fait la seule que le Seigneur avait prévue, mais il s'est engagé à suivre la volonté de son Père, par exemple. Et nous, nous avons ce Père, avec toutes ses merveilles, avec son Fils qui nous a donné quoi? Il nous a tout donné. Il nous a donné son sein, sa vie. Des fois, je réponds à des personnes, « Ouais, mais un meurtrier, il ne peut pas aller au ciel s'il se repent. Et moi, qui suis-je? C'est mes péchés qui ont tué Jésus-Christ à la croix. Je ne suis pas un meurtrier. » Hein? Réfléchissons vraiment aux paroles que le Seigneur nous dicte et nous dit. Si aujourd'hui, on est à l'église ici ce matin, ça a coûté cher. Ça a coûté une vie extraordinaire, une vie sans péché. Ça a coûté cette vie-là afin que nous puissions jouir ce matin de notre Seigneur, de notre Dieu et de toutes ces merveilles qu'il a pour nous. Donc, dans les Actes des apôtres, affirme que c'est conforme à la volonté de Dieu que Jésus a été crucifié. Est-ce que ça vous paraît bizarre que la volonté de Dieu soit de crucifier son fils Jésus? Si on regarde du point de vue humain, oui, c'est bizarre. Mais du point de vue de Dieu, il y avait déjà toute la connaissance de ce qui allait se passer. Depuis le jour 1 jusqu'au dernier jour, on ne sait pas encore c'est le cas, mais c'est la volonté de Dieu qui prévaut. Et Jésus avait accepté cette volonté de son Père afin que s'accomplisse ce qu'il avait préparé pour la création, pour la créature qui croira en ce Fils. Ce Fils qui allait mourir, mais n'oublions pas, il n'est pas simplement mort, il est ressuscité aussi. S'il ne serait pas ressuscité, là on aurait un problème. Mais là, il est ressuscité des morts, il est vivant, il est auprès du Père. Et il est où? Avec nous. Tout le temps. Et c'est ça qu'on a besoin de bien comprendre, de bien saisir quand on parle que Dieu, c'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ soit crucifié. Ça, vous pouvez voir ce texte-là dans Actes 2, 23 et 4, 28. Comme David a accompli cette volonté en son temps, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu, affirme que cet accomplissement de la volonté de Dieu a aboli une fois pour toutes les sacrifices offerts selon la loi. En même temps, Jésus fait la volonté de Dieu et enseigne aux hommes que tous doivent obéir à la volonté de Dieu. Le sermon sur la montagne se termine sur l'avertissement que seul celui qui fait la volonté de son Père entrera dans le royaume des cieux. Ça commence à être assez sérieux. Vous pouvez aller voir un texte qui vous parle de ces choses-là dans Matthieu 7, 21. Vous savez que si on pêche volontairement, il dit dans les Écritures, il n'y a pas d'autre sacrifice. Là. Il faut se repentir et se tourner vers Dieu et demander pardon et le faire au plus vite parce que n'oublions pas que l'ennemi, lui, si tu lui donnes une petite place, il va en prendre une grande. Donc, dans les épîtres de Paul, se présente plusieurs fois comme étant apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de textes que vous pouvez considérer, Colossiens 1:1 et 2 Timothée 1:1. Pas trop dur à chercher. Car il considère son ministère comme un prolongement de l'activité de Jésus lui-même. Aussi veut-il annoncer tout le conseil de Dieu qui lui a été communiqué par Dieu lui-même. Les Écritures sont révélées par qui à votre cœur, à votre âme? Oui, le Saint-Esprit. Et c'est qui a envoyé le Saint-Esprit? Dieu. Et qui a permis qu'on laisse ce Saint-Esprit-là? Jésus-Christ, parce qu'il est retourné au Père, et il nous dit, je vous envoie un consolateur, qui est l'Esprit-Saint, qui vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on a tous les outils nécessaires pour faire la volonté de Dieu. Puis peu importe que vous soyez chrétien d'un jour ou de 100 ans, vous avez le même privilège. Le Seigneur, c'est sa justice et non pas la nôtre. Donc, l'apôtre Paul, lui, il voulait vraiment faire connaître aux gens qu'il démontrait par ses actes, et comme il disait aussi dans d'autres textes, qu'il voulait que les gens l'imitent parce qu'il imitait Jésus-Christ. Il était à l'écoute de Jésus-Christ, il était à l'écoute de Dieu afin de démontrer vraiment toute la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Justement, qui voulait faire connaître toute la volonté de Dieu qui lui a été communiquée par Dieu lui-même. Tous les rachetés, maintenant, on va parler de nous maintenant. Tous les rachetés ont été prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Nous, on est adoptés. Avant, on n'avait pas de père spirituel que je parle. On avait les rudiments du monde, les bébelles autour de nous, mais on n'avait pas le Père. OK? Par Jésus-Christ, d'être adopté selon le dessein bienveillant de la volonté de Dieu. Ils sont nés de nouveau selon cette volonté. Vous n'êtes pas nés de nouveau selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu. C'est lui qui est venu vous chercher. Moi, je me rappelle... Les jours avant que je connaisse le Seigneur Jésus, avant que je connaisse qu'il fallait que je me repente, puis avant que je sache que j'étais vraiment un pécheur, il a fallu que Dieu travaille. Le Saint-Esprit aussi vienne travailler, vienne me dire, « Hey, François, tu es un pécheur. Tu as besoin de te repentir parce que tu as un jugement devant toi. » Mais il y a une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ mort à la croix pour tes péchés. Là, on commence à comprendre. Là, on commence à saisir vraiment cette adoption que Jésus nous a donnée. Ils sont nés de nouveau selon cette volonté qui contraste cette naissance à celle due à la volonté d'un homme. Car ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits périsse. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est pour le chrétien offrir son corps en sacrifice vivant et être transformé par le renouvellement de l'intelligence, travailler à sa sanctification, s'abstenir de l'inconduite, faire le bien et rendre grâce en toutes circonstances. Toute prière faite selon la volonté de Dieu est certaine, non seulement d'être entendue, mais d'être exaucée selon la volonté de Dieu. Et l'enfant de Dieu, oui, le Seigneur lui donne des indications, des choses à faire, et ça, mais c'est toujours, il doit toujours se référer à Dieu lui-même et à ses écrits et à sa volonté, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. C'est pas pire, ça va bien. Le chrétien est appelé à faire la volonté divine de tout son cœur. Qu'est-ce que David a fait? Oh, il y a eu des moments difficiles, qu'on peut dire. Il a péché, il s'est relevé, il y a eu des faiblesses. Mais qu'est-ce que Dieu disait de David? Un homme selon son cœur. Ici, il demande aux chrétiens à faire la volonté divine de tout son cœur. Donc, c'est pas l'affaire... je vois Élise Tantin, je fais ci, je fais ça. Non, non. C'est chercher qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec lui par les invitations, les appels qu'il nous transmet. Avec persévérance, afin d'obtenir ce qui lui est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? Ben, j'aime ça poser des questions. Un petit peu de difficulté à avoir les réponses, hein?
Ils ont promis la
vie éternelle. Oui, mais aussi une vie remplie de lui, de toutes les choses qu'il veut nous donner, une vie d'abondance. Que Marlène m'a soufflé un peu. Là. Hein? Une vie d'abondance en lui. Et de demeurer pour toujours, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu peuvent être certains de la protection de leur Créateur. Croyez-vous ça?
Oui.
Il y en a ici qui souffrent, je le sais. J'en fais partie moi-même. Mais je sais que Dieu est toujours là à nos côtés. Il nous aide, il nous relève, il nous aide à se tenir debout. Il y a des fois qu'on arrache, mais Dieu le sait. Et il prend soin de nous. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, aussi, on avait... Allez, attends un peu. J'ai passé un bout. OK, on reprend. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu peuvent être certains que la protection de leur Créateur. Cette volonté de Dieu s'oppose pour le croyant à la volonté de la chair. Il y aurait bien des petites affaires qu'on ferait pour soulager des fois, mais ce n'est pas la bonne chose. C'est-à-dire, de l'Ancien Testament, nature corrompue. Il ne faut pas oublier que, comme on dit dans les Écritures, si on laisse aller les choses, le péché accourt, il nous entoure si facilement. On a besoin de la présence de Dieu régulièrement et tout le temps. Qui en fait s'accomplir? Quelle volonté la volonté de la chair veut faire? Oui, puis dans le fond, ce n'est pas notre volonté, on pense ça. Mais c'est la volonté du diable. C'est lui qui vient nous souffléter des affaires par en dessous. Puis là, quand on est faible, mal pris, comme il a essayé avec Jésus-Christ au jardin de Gethsémané, il a tenté, mais ça n'a pas marché. Donc, nous aussi, on devrait s'adresser au Seigneur sur sa volonté afin que le malin, Satan, ne puisse pas venir interrompre dans nos volontés, dans nos idées, le désir de servir Dieu. Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, il faut connaître cette volonté, révélée autrefois aux Israélites et maintenant portée à la connaissance des païens. Romains, ça Philippe, tu l'as, Romains 1, Romains, oui, 1, 5 et 6. OK? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Écriture de Sainte, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Un texte très intéressant qui nous rappelle que le Seigneur, il travaille d'un couvert à l'autre des Écritures. Il ne travaille pas rien qu'au Nouveau Testament, ni dans les psaumes, mais il travaille du commencement à la fin, tout le temps. Et ici, on revient au verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés, par Jésus-Christ. Nous pouvons même dire, remplisse de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Philippe te sait aussi, Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pourquoi qu'on a besoin d'être rempli de sa connaissance? Ben, pour marcher selon son plan, marcher selon ce qui lui est agréable, marcher selon, afin de grandir en lui, et de le connaître de mieux en mieux, et d'avancer dans ce sens-là, afin que on voit les bénédictions du Seigneur en grandissant. Hein? Quand on stagne, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche autour de nous autres. C'est parce qu'à ce moment-là, on a une petite tendance à s'éloigner de Dieu et de sa volonté. Nous comprenons quelle est la volonté du Seigneur si nous laissons toujours à nous remplir de l'Esprit de Dieu. Si nous le laissons remplir de l'Esprit de Dieu, nous comprenons, n'est-ce pas? Si l'Esprit de Dieu est capable de vous remplir de la volonté du Seigneur, bien, vous allez avancer. Aussi, on va lire Éphésiens 5, 17 à 19. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Donc, quand on est rempli de l'Esprit, puis on est rempli des choses du Seigneur, qu'est-ce qu'on a comme envie? De louer Dieu. C'est simple. De louer Dieu et de... En louant Dieu, bien, on fait sa volonté parce qu'on s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Ce matin, on a eu des belles louanges, hein? Surtout le dernier. Moi, le dernier, là, je suis accroché. Et j'avais deux parties, j'espérais faire la deuxième, j'ai eu le temps. La volonté de Dieu est aussi les dons. Ah! C'est bien beau de dire « Je suis sauvé ». Je ne crains plus, je suis libéré, je suis en paix. Hey, Seigneur, ouais, mais dis-toi un peu, là. Petite minute. Moi, je te donne. Tu reçois. Tu me donnes tes péchés. Tu me donnes tes faiblesses. Et quand tu réagis, que tu sais que tu es rempli de mon esprit, bien là, tu me loues, tu me rends grâce, et tu me remercies. Mais maintenant, j'ai une autre invitation pour toi. Parce que je t'ai donné d'autres choses. Je t'ai donné des dons. Et ces dons-là, il ne faut pas faire comme le gars, la parabole des mines, qui a enterré sa mine. Puis quand que le Seigneur va revenir, comme là, le roi est revenu, puis il a dit, hey, mauvais serviteur. Est-ce que c'est ça que je vais faire? Ou je vais utiliser le don que Dieu m'a donné? Son service. Parce que le Seigneur veut toujours passer par ses enfants, les êtres humains, qui sont pleins de faiblesses, de manquements et tout ça. Et pourtant, c'est le Seigneur qui nous rend capables. Essayons pas de l'être nous-mêmes, oublions ça. C'est le Seigneur qui nous rend capables de faire des choses. Donc, Romains 11, 29. Un verset intéressant. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Même si vous péchez encore, malheureusement, même si vous avez des manquements et des faiblesses encore, Dieu ne dit pas, « Hey, il faut t'enlever ton don et il faut t'enlever ton salut. » C'est pas ce qu'il dit. Il dit, car Dieu ne se repent pas. Donc, peu importe ce qui arrive, il vous l'a donné. Et ça, vous ne pouvez rien contre son appel, ni le don qu'il vous a donné. 1 Corinthiens 7, 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Pas la part de ce que les gens autour de lui lui ont dit, ni de sa famille. Non, non. C'est ce que Dieu a donné qui est important. Ce que Dieu a pris pour nous. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Hein? Même si des personnes vont vous dire, ah, tes affaires, là. Non, non. Personne ne peut vous enlever ça. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour les saints. Si vous pensez que vous avez fini de recevoir du Seigneur parce que vous êtes sur la terre, je suis désolé pour vous, il y a des prix encore qui restent à développer et à recevoir dans notre héritage, mais qu'on arrive au ciel. C'est intéressant, ces versets-là. Ça nous demande que Dieu ne nous a pas appelés à de la misère, quoique des fois elle est présente, mais qu'il nous a appelés à être heureux avec lui, être en paix, être rempli aussi de la vérité. Donc, vocation, le mot vocation et appel viennent du verbe grec kaléo, qui signifie appeler, faire venir. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu appelle, c'est-à-dire invite ses enfants à le suivre. Ça, vous allez trouver ça dans 2 Timothée 1:9. J'aime beaucoup le petit bout ici, c'est-à-dire invite ses enfants à le suivre. Est-ce que c'est vous qui va aller sauver la personne du coin de la rue? Non, mais il peut vous inviter. Viens avec moi. Viens avec moi, on va aller rencontrer une personne. Et c'est curieux, tout d'un coup, la parole de Dieu te vient claire et tu es capable de parler à cette personne-là comme tu n'avais jamais pensé. Et cette personne-là, Dieu la convainc et l'emmène avec ses enfants, la sauve. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Puis pas une fois, quelques fois. Pourquoi? Parce que simplement, oh Seigneur, ils vont arriver à ce soir. Ils arrivaient des fois à 10 heures, ils repartaient à 3 heures du matin, et le lendemain matin, il y avait l'école du dimanche. Ouf! Mais, oh, la personne est venue au Seigneur, ça ne valait pas la peine de veiller un peu tard. Ou, un autre tantôt, on se promenait, moi, puis Marie-Paul, puis Serge. On était à Sherbrooke. Et on distribuait des invitations pour remplir le théâtre là-bas, suite à les conférences qu'il y avait. Et mon petit garçon, qui était haut comme 3 pommes à l'époque, distribuait les invitations. Ce qui était drôle, c'est que les personnes âgées couraient toutes après lui pour nous avoir. Là, il y a une personne qui s'approche de nous, puis elle voulait une invitation parce qu'elle voulait connaître qu'est-ce que ces gens-là parlaient de Dieu? Puis, moi et Raymond Abel, à l'époque, un autre chrétien, on faisait de la moto ensemble, donc on va, puis on rencontre un homme dans un parc, une grosse bouteille de phare. Raymond, il dit, on va-t-il en donner une invitation? Et il a droit aux invitations, pas même les autres. J'ai pris l'invitation, j'étais m'assis à côté, et je l'ai invité. Vous savez ce qui est arrivé le soir? À l'appel? il a avancé à 9 ans. Et le pasteur qui était là, c'était Michel, son nom de famille m'échappe, il était encore d'église. Hein, quand il s'assire à côté et donner une invitation. Puis il a rien fait d'extraordinaire là. Mais le Seigneur, lui, a fait ce qu'il voulait. Et c'est ça qui est important. C'est ça, c'est-à-dire, invite ses enfants à le suivre. Qu'est-ce que Jésus a dit aux ceux qui disaient qu'il mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Je ne suis pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Est-ce qu'on cherche à emmener dans nos églises des gens sauvés ou des pécheurs que Dieu pourrait convaincre? Des pécheurs qui pourraient les emmener à lui? Le peuple d'Israël a été par vocation le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, grec kelos, mais plus d'élus. Car les élus sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Hein? Donc, elle existe, cet appel-là. Ce sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Et si vous entendez cet appel dans votre cœur, peu importe que vous soyez sauvé, il y a l'appel pour le salut, bien sûr, à la repentance, mais il y a l'appel d'aller avec le Seigneur à travers la moisson. Et comme Gilles Despins nous a dit, levez les yeux. Regardez, la moisson est là. Mais si on ne veut pas l'élever, Dieu, on ne répond pas à l'appel de Dieu. Là. On fait notre égoïsme. Car les élus sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans la foi et l'obéissance. L'Église est maintenant le peuple constitué par l'appel de Dieu. Ses membres sont appelés au royaume de Dieu ici-bas. Et ça, c'est important aussi de le voir. Est-ce que vous êtes sauvés, bien que vous soyez dans le ciel, ou si vous formez le royaume de Dieu ici-bas? Il y a une bonne valeur pour vous autres à dire, mais vous formez déjà le royaume de Dieu ici-bas. Si vous avez dans Éphésiens ou Philippiens, je ne me souviens plus à référent, on est déjà une position assise dans le ciel. Fait que quand on est assis à l'église ici, on a le ciel avec nous autres. Hein? Même les anges plongent le regard pour voir ce qui va se passer dans l'église. Et celui qui est encore à venir, c'est-à-dire le siècle qui est encore à venir, c'est mes conseils en haut, tous ensemble. J'espère. Ils sont appelés à la véritable liberté. N'est-ce pas une liberté que de connaître Dieu, de savoir sa volonté et de faire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de personnes qui pensent dans les distractions, les choses-là qui ont une liberté. Mais dans le fond, ça ne vous empêche pas d'avoir les mêmes libertés pourvu que ça aille selon la volonté de Dieu. Les gens ont l'air à se limiter, à se mettre un barème, un cadre pour s'empêcher de faire des choses que Dieu n'a même pas défendues. Et ça, c'est important de le réaliser aussi. Ma conclusion, et je vais arriver à temps, à vapeur un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références. Je peux vous dire, cette étude-là m'a pris bien, bien du temps, parce qu'il y a plein de commentateurs, et j'ai fait des synthèses de synthèses de synthèses. Puis j'ai dit, j'ai deux parties, je ne peux pas aller en bas de ça. Donc, la conclusion, il est important de souligner que la vocation n'est pas seulement un appel au salut, mais au service. Comme Marlène, elle joue du piano, puis elle chante. C'est pas deux dons, ça? Oui, c'est deux dons. Parce que tu peux être musicien sans chanter, tu peux chanter sans être musicien. Donc, ça fait deux. Et aussi, elle fait ses petits partages avec les dames. C'est encore un don, ça. Est-ce qu'on veut avoir des dons, juste seulement des « wow » comme dons, ou si on veut des dons qui sont comme par en arrière? Moi, c'est ceux-là que je préfère. Cachés, en arrière. Dieu seul le sait. L'Église a de la misère à découvrir. Et pourtant, on devrait, chacun de nous, avoir les yeux bien ouverts sur les dons de chaque frère, de chaque sœur. parce que l'Église serait davantage bénie. Citons les exemples de Moïse et d'Ésaïe, des disciples et de Paul. C'est ce qui souligne Pierre lorsqu'il parle de l'appel général que Dieu adresse à tous les chrétiens, des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il en indique le but afin que vous annonciez les vertus, c'est-à-dire la puissance et les qualités de Dieu. Tous les chrétiens sont donc appelés à la foi, au salut et au service, à un service particulier. Moi, dans l'Église ici, je vois bien des choses. À ma manière, peut-être. Mais je cherche que ce soit à la manière de Dieu. Que Dieu me les révèle. Je vois des évangélistes. Je vois des sages. Je vois des anciens. Je vois des gens qui partagent selon l'historique. D'autres qui vont aller dans la précision, dans le fondement. D'autres qui vont être plutôt études. Mais ça, c'est selon le don qu'ils ont reçu et que j'ai reçu. C'est ce que souligne Pierre en parlant des dons accordés à chacun pour un tel service. Revenons à la notion biblique du sacerdoce de tous les croyants. Luther et les autres réformateurs ont laïcisé et démocratisé la notion de vocation réservée au Moyen Âge à l'entrée dans les ordres religieux. Le Moyen Âge, selon les traditions, les choses-là, il fallait que tu rentres soit comme une sœur, une religieuse, ou comme un curé. Mais c'est Luther et les réformateurs qui ont changé ça. Dieu a appelé ses serviteurs à voix audible. Est-ce que vous avez entendu l'appel de Dieu? J'espère que oui. Audible. Par exemple, Abraham et Samuel, ou par l'intermédiaire d'anges ou d'êtres humains. C'est intéressant ici. L'intermédiaire d'anges ou d'êtres humains. Ça veut dire qu'on est des êtres humains, ce que je sache. On n'est pas d'autre chose que ça. Et vous êtes la responsabilité, autant que les anges, d'aller annoncer la parole de Dieu. C'est intéressant quand on lit toutes les choses comme correctement. L'appel peut aussi prendre la forme d'une conviction intérieure croissante. Qu'est-ce qu'on peut dire par ça? Vous êtes convaincu que dans l'Église, il faut qu'il y ait une campagne d'évangélisation. Ou vous êtes convaincu que les réunions doivent avoir une autre sorte de caractère. Peu importe, c'est une des idées que je mets comme ça. Mais c'est une conviction que Dieu met en vous. Comme il nous convainc d'étudier un texte biblique. Comme je sais que les mercredis que je vais revenir faire la prédication sur l'étude de Ruth, c'est une conviction qui était venue. Il fallait que je parle de Ruth. Si je ne parlais pas de Ruth, me semble, ça ne marquait pas mon affaire. Comme ce matin, je parle, mon but dans cette étude ce matin, c'est de faire réaliser que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien dépend de la volonté de Dieu, dépend de Dieu pour faire sa volonté. Soit évangélisé, soit simplement prié, peu importe. Mais cette volonté-là doit venir de Dieu en vous. Conviction intérieure croissante, confirmée par les avis des frères et sœurs, et éventuellement par les circonstances. Vous allez avoir une conviction, mais là, ça va, les frères vont dire, oh oui, c'est une bonne idée, ça. Puis là, ça va avancer de même tranquillement jusqu'au moment où ce que ça va devenir une circonstance actuelle. C'est du moins ici que beaucoup de serviteurs ont vécu leur appel en Jésus-Christ comme Dieu appelle qui il veut. Il appelle qui il veut. C'est pas moi qui ai décidé, c'est pas l'autre qui a décidé, c'est lui qui décide. Sans tenir compte de la condition sociale des appelés, pauvres, aides pauvres, pleinement riches, pas important. C'est de répondre à l'appel du salut de Dieu. Donc, la condition sociale n'a peu d'importance. Paul se plaît à rappeler la vocation qu'il a reçue. Et il demande aux chrétiens de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Il s'agit de la vocation générale d'enfant de Dieu qui nous est adressée au moment de notre nouvelle naissance. Vous obtenez ça dans votre nouvelle naissance. Mais il y en a un qui n'a pas continué avec cet appel-là. On l'appelle Judas. Judas est l'exemple de l'homme qui a été infidèle à sa vocation, à l'appel de Dieu. On nous dit ça dans Matthieu veut dire 26, 14, puis il y a bien des versets que je pourrais vous donner, là, mais je vais arrêter, il n'y aura plus de voix à la fin. Donc, si quelqu'un répond à l'appel de Dieu et travaille de tout son cœur pour lui, alors une grande récompense l'attend. Croyez-vous ça? Il y a des couronnes que les Écritures nous parlent. Puis il y a aussi rentrer dans le repos du Seigneur, rentrer auprès de lui en paix et en tranquillité, sans avoir peur qu'il y ait un ticket à la porte qui nous est demandé, parce que notre ticket, c'est Jésus-Christ. Donc, dans Éphésiens 1, 18, c'est là que tu l'as, Philippe. On en a parlé tantôt, lui. Ouais. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. N'oubliez jamais que le Seigneur, il veut tout vous donner, là. Tout ce que vous avez de besoin sur la terre, mais aussi toutes les richesses qui viennent du ciel. La condition, c'est simplement d'accepter que Jésus dirige nos vies, d'accepter de faire sa volonté. Dans 2 Pierre 1, 10, Pierre exhorte les croyants à affermir leur vocation, c'est-à-dire à en manifester les fruits. Tu dois l'avoir, celle-là, oui. Donc, dans le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronchez jamais. Fait que ça veut dire pourquoi qu'on bronche encore? Moi-même, je m'accuse le premier. Parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu toujours de tout notre cœur. Le verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Ça vaut la peine de prendre le temps de chercher dans les Écritures, d'étudier les Écritures pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Les hommes, les êtres humains nous ont dit toutes sortes de choses d'un côté religieux comme de l'autre, mais le Seigneur, lui, il nous a toujours conduits vers les bonnes choses qu'on avait besoin. Donc, le mot de la fin. Alors, faisons attention à l'appel de Dieu. Amen.